À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonjour Serge, bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour Florence.
Bonjour Florence.
Bonjour à vous.
Dont vous avez fait la connaissance à la dernière émission. Et qui continue, dit... elle se trouve bien avec nous finalement.
Voilà. Oui, c'est sûr.
Voilà, mais nous aussi. Et un peu d'actualité. Bon, ben, malheureusement, l'actualité, on a de nouveau beaucoup parlé de l'Italie ces temps-ci. Et notamment des Abruzzes, les pauvres Abruzzes. Région magnifique, entre parenthèses.
Exactement.
Et donc les Abruzzes qui ont de nouveau des... un petit tremblement de terre par rapport au précédent, mais un tremblement de terre quand même, et qui a peut-être eu des conséquences, on ne sait pas si c'est dû à cela, mais le fameux hôtel de Rigopiano qui a été enseveli sous une avalanche. Alors, Rigopiano est près de Farindola, toi qui connais bien les Abruzzes.
Bah, je n'étais pas chez moi, je n'ai pas pu regarder. Voilà.
Donc, les statistiques, vous les avez hein, dans toutes les radios, les télés. Actuellement, il y a 11 personnes qui ont été sauvées. Il y a 14 personnes dont le décès est confirmé. Et il y a 15 disparus que l'on n'a pas encore retrouvés. Alors, comme d'habitude, il y a l'événement, il y a la tragédie, les secours qui ont du mal à arriver à cause de l'enneigement. Alors, il faut dire qu'avant le petit tremblement de terre, le tremblement de terre, et avant cette avalanche, depuis des semaines, les Abruzzes sont sous des mètres et des mètres de neige, et ce qui fait que, comme c'est en pleine montagne, malgré les chasse-neige, l'accès est quand même difficile.
Le plateau est à 1500 mètres, jusqu'à 2000.
Oui, c'est ça. Et la route étroite, en général, en plus. Et puis, comme toujours, on commence petit à petit à naître quelques... polémique, toujours quand il y a des catastrophes, notamment sur l'arrivée des secours et autres. Alors en fait, La Repubblica, qui est un journal sérieux, relaie ces jours ce qui a pu être considéré comme un retard des secours et voire certaines confusions. En fait, la semaine... précédant quelques jours avant, on va dire, quelques jours avant l'avalanche, la direction de l'hôtel, c'est-à-dire M. Bruno Di Tommaso, a envoyé un mail, que publie d'ailleurs La Repubblica, à la préfecture, au président de la région de Pescara, au maire de Farindola, dont Rigopiano, c'est vers Farindola, pour dire que suite aux secousses telluriques et suite aux 2 mètres de neige qui entouraient l'hôtel, la situation était préoccupante parce qu'il avait 12 chambres occupées et que il demandait justement à ce que les touristes logeant dans les chambres étant complètement affolés, à ce qu'on essaye de voir ce qu'on pouvait faire parce que déjà son groupe électrogène qui marchait au gasoil, il n'y avait plus de fournisseurs de gasoil qui pouvaient monter. Et il mettait dans ce mail, on peut tenir encore une ou deux journées, mais après ça va être difficile. Et puisque les voitures ne peuvent pas partir de l'hôtel, tous mes clients sont prêts à partir en raquette. Ça, c'était donc... le premier message, mais qui était avant l'avalanche et qui parlait surtout des conséquences des chutes de neige et du tremblement de terre qui a affolé, évidemment, les touristes clients. Le deuxième fait qui, là, est plus lié à l'avalanche elle-même, c'est un monsieur Quintino Marcella qui le raconte. Alors, ce monsieur, il est restaurateur. Pas restaurateur de l'hôtel, mais restaurateur donc un peu plus bas. Et il dit qu'il témoigne qu'il a téléphoné à la préfecture parce que son son cuisinier avait appris qu'il y a eu une avance sur l'hôtel, sans doute par quelqu'un qui l'a visualisé, vu de loin et autres, et qui, donc ce monsieur Quintino Marcella, appelle la préfecture pour lui signaler que l'hôtel de Rigopiano s'est écroulé, et la fonctionnaire qui répond à ce monsieur Marcella lui dit non, mais c'est une rumeur qui court depuis un petit moment, et d'ailleurs mes collègues peuvent en témoigner, mais en fait il y a confusion parce que c'est une bergerie qui s'est écroulée, et il se trouve que cette bergerie est à quelques pas de l'hôtel, une bergerie de 300 moutons qui appartient à M. Martinelli, qui paraît-il fait un excellent fromage de brebis, et donc cette bergerie s'est vraiment écroulée, mais l'hôtel pas du tout, et c'est une rumeur qui court. Et, alors ce monsieur Marcel insiste en disant, mais si, mon cuisinier est quelqu'un de sérieux, il m'a contacté par WhatsApp, la technique de téléphonie. Ce monsieur Parete, qui lui-même travaille dans une pizzeria voisine, me l'a signalé, et vous pouvez être sûr qu'il ne raconte pas d'histoire. Alors la fonctionnaire dit, mais on a eu, il y a 2 heures, comme il y a eu des rumeurs, qu'il y avait des rumeurs de problèmes dans le coin, on a eu le directeur de l'hôtel, nous-mêmes au téléphone, le même monsieur
qui a envoyé le mail.
Le même monsieur qui a envoyé le mail. Et ce monsieur nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis dans son hôtel, que tout va bien, absolument. Et ce qui est vrai, en plus, ce contact a vraiment eu lieu avec ce directeur d'hôtel. Le problème, c'est que le directeur d'hôtel n'était pas à l'hôtel quand il a dit que tout allait bien. Lui-même n'était pas informé de quoi que ce soit. Et donc il y a eu une confusion, un moment de doute, croyant à un canular, pensant même de la part des fonctionnaires que ce monsieur qui avait lancé un SOS par téléphone à ce restaurateur et était en fait pas lui-même mais quelqu'un qui lui avait pris le téléphone et qui faisait un canular. Voilà. Enfin voilà un petit peu l'explication si on peut dire, et la malheureuse confusion qu'il y a eu et qui a retardé au moins le départ des secours.
Et le lieu, c'est sur le plateau de
alors la commune
Abruzzes, c'est sur du versant Laqui là ou du versant
alors moi je connais assez mal le coin, mais c'est à côté de Farindola, mais c'est bien dans la province de Pescara par contre. Voilà, alors malheureusement, ce fait d'actualité, je crois qu'on va encore en parler longtemps. Ceci dit, les avalanches, et notamment dans les Abruzzes, il y en a déjà eu. C'est une région très montagneuse.
Mais il faut se défaire de l'idée que l'avalanche est en montagne. Il y a quelques années ici, au Granier, il y a eu 3 morts par une avalanche.
Il y en a eu beaucoup Granier, plus au Val d'Isère, qui là, par contre, est en montagne. Voilà pour les fameuses polémiques naissantes. Alors sinon, on va parler de l'actualité italienne ici, et notamment de celle d'Inis. Le programme de 2017 est déjà bien bouclé, avec des voyages notamment en montagne, puisqu'on va aller dans les Dolomites, à Venise pendant la période de la Biennale, et puis d'autres petits événements dont on aura l'occasion de parler plus avant. L'événement le plus près de ce début d'année, c'est celui qu'on va organiser au mois de mars. Alors vous savez que toujours au mois de mars, on a créé depuis quelques années Chansons de Femmes.
Les 5 années, 6 années.
C'est le 5e, absolument. Et on jumelle tout ça avec des rencontres chez Majolir autour d'un écrivain. Alors le jeudi 2 mars, chez Majolir, Bourgoin, vous aurez Michel Zancarini-Fournel qui vient pour le livre qu'elle a écrit sur l'histoire populaire de la France de 1685 à nos jours et qui s'appelle « Les luttes et les rêves ». On aura l'occasion là aussi de rentrer dans le détail. Et nous-mêmes, donc le vendredi 17 mars à 20h à la salle Balavoine de Villefontaine, on présente comme d'habitude un plateau avec 2 concerts. La première partie est le concert d'une, en général, auteur-compositeur française, qui est à la plus près, accepte toujours de passer en première partie, et qui cette année sera Marianne Chaffanjon, et ça tombe bien, parce que la soirée est à Villefontaine, et Marianne est de Villefontaine. Elle est auteur, compositeur, interprète. Dans une prochaine émission, on vous fera écouter d'ailleurs quelques-uns de ses morceaux. Elle est enseignante. le lien avec l'émission d'aujourd'hui. Et elle est enseignante. Elle est aussi. Elle fait du piano, elle a pris la guitare, elle fait des beaux-arts. Elle expose même ses propres œuvres de création où elle met. Ces tableaux sont à la fois un jeu de peinture et de texte, assez intéressant. Et en deuxième partie, donc, nous avons un duo de Miranda Cortés et de Raquel Colombo. Alors, Miranda Cortés, comme son nom l'indique, est française. En fait.
C'est la chanteuse italienne. Enfin, Miranda, en italien.
Non, Miranda Cortés, elle est en fait établie à Venise. D'accord. Son vrai nom est en fait Cortese. Elle a pris le pseudonyme de Cortés. Elle est née à Metz, en Lorraine, mais
de souche italienne.
Voilà, exactement. Mais elle habite Venise depuis longtemps. Elle est donc chanteuse et surtout accordéoniste. Et elle a publié déjà plusieurs albums. Elle est diplômée des conservatoires de Vicenza et de Latina. Et Raquel Colombo, qu'on connaît depuis longtemps, on l'avait fait venir il y a de nombreuses années à l'intérieur du groupe Calicanto à l'époque, puis après elle a suivi sa route personnelle. Elle a beaucoup travaillé sur les traditions musicales d'Orient, d'Afrique. Elle est polyinstrumentiste, elle joue de la guitare, elle fait des percussions. Et puis elle a travaillé avec beaucoup de monde et de la chanson et de l'écriture d'ailleurs. Et ces deux femmes se connaissaient plus par leur réputation de leur travail que se connaître vraiment dans la vie de tous les jours. Puis elles ont appris à se connaître, s'apprécier. Elles ont décidé de faire un album ensemble. Et cet album qui vient de sortir d'ailleurs et dont on aura la représentation complète à Villefontaine, voire deux, trois autres chansons qui seront en dehors de cet album lui-même. Alors on va écouter un premier morceau. Ce premier morceau, en fait, s'appelle Aquarium Vénitien. Alors, pourquoi Aquarium Vénitien ? Parce que tout l'album, en fait, est dédié au voyage entre terre et eau. Et Raquel et Miranda, pour ce morceau, qui a été écrit là par Miranda, disent qu'elles naviguent et qu'elles arrivent sur cette ville de Venise, qui est pleine de charme, qui est une reine de la Méditerranée, mais qui marche sur un fil suspendu, puisqu'on a toujours l'impression qu'elle va tomber, hein, qu'elle risque de chuter. Et donc elle se met à jouer de la musique comme une caresse qui entoure cette ville, et qu'elle est une sorte, cette musique, de pêche au fond de la lagune, dans un aquarium enchanté. Et c'est donc la ville de Venise qui nous est là, dans leur chanson décrite, à la fois, vous verrez le texte en français et en vénitien.
Vado.
Sur la pierre chaude de l'été, l'or resplendit de toute sa merveille. Les étroites ruelles se confondent en un labyrinthe
campanón in un campo che ride, che siga, che canta. Una danza intorno alla piera finché a sera ne destua, ma solo per poco.
Mes pas répandent une musique qui voltige dans les harmonies aquatiques. Je regarde émerveillé ce spectacle quotidien. Comment pourrais-je m'en séparer dans un futur immédiat?
Se camminano tutti insieme, un liston senza festa. Non resta che rubare a piazza i colombi e i turisti e i foresti. E sigar, senza sogar, la nostra rabbia.
Je demeure dans la ville de Pierre, celle qui jadis était nommée reine de la Méditerranée. Le parfum des siècles imprègne ses sols et ses palais de marbre. Je regarde le passé, mais hélas, je ne vois pas le futur.
Nianca più quea e arabia nianca. Ne manca l'animo del sigar in coro. Ne manca il coro, un gran cor dentro che si spiega solo per i campi siti e i cavei bianchi.
Et voici l'histoire véridique de la reine, une ville piétinée, retournée, froissée. Le monde entier vient lui rendre visite, mais son cœur est désormais triste. La montée des eaux, un jour, la recouvrira pour toujours. Et enfoncée dans la lagune, elle se transformera en un magnifique aquarium enchanté. Aquarium enchanté.
Voilà, vous êtes bien sur 97.1. Alors, vous aviez compris, bien sûr, que Miranda disait, chantait, mais disait plus, d'ailleurs, le texte en français, et que ce n'était pas Raquel et qui l'accompagnait, mais parce que dans le disque, elles ont invité, pardon, Gualtiero Bertelli, qu'on connaît bien ici, et qui lisait donc cette poésie en langue vénitienne qui s'appelle El Campanon.
Mais ouais. La chanson où elle dit que Venise va être transformée en aquarium, j'imaginais les grands immeubles qui flottent sur 8 étages et les touristes derrière, le nez collé, qui ressemblaient à un poisson sur la vitre.
Comme quoi elles ont réussi.
Voilà.
Voilà. Bien. Eh bien, on va continuer avec Florence.
On va continuer l'émission du mois dernier avec Florence Gaillard, qui est fondatrice, cofondatrice de l'association Aide-moi à faire seul de Bourgoin. On va continuer à parler de Maria Montessori sous deux aspects. Le premier sur l'idée qu'elle avait de développer la paix, et ensuite de manière plus concrète sur sa pédagogie. Et puis après on dira un mot de l'activité de l'association qui est au 73 avenue de la Libération, dans la même cour que nous. Quoi.
Dans la même cour que nous.
Voilà, nous sommes voisins.
C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs.
Oh, il y a mes racines italiennes un peu aussi.
Ah d'accord.
Oui, de quelle région déjà du nord, elle limite Lombardie.
Voilà, ça, du côté de mon mari, pas du
Lombardie
côté,
et Trentin,
pas de mon côté directement.
Oui, puisqu'on y avait fait un voyage, ça y est.
Oui, avec ma tante.
Avec la tante de Florence, oui. Qui
qui s'appelle Scalvini.
Et on a, et d'ailleurs, dans cette région, on avait été... un carnaval, un vieux carnaval.
À Pontecafaro.
Pontecafaro et à Bagolino.
Ouais,
c'est l'un des plus vieux carnavals d'Italie et qui reste encore très local. On était les seuls touristes, ce qui n'est pas non plus désagréable.
Oui.
Et Pontecafaro, on avait rencontré notamment ce fameux luthier amateur, hein, puisqu'il était boulanger au départ, et qui, encore à plus de 80 ans, fabrique des violons, des guitares, et qui avait nous avait enchanté dans sa maison, montré tout son travail. Non, c'était et ceci, le contact en tous les cas avec lui, en grande partie grâce à la famille Scalvini.
Voilà,
faut le dire.
C'est là où l'accueil de Lini, c'est formidable, parce qu'il y avait une des âges très différents, puisque ma fille, à l'époque, il devait avoir 13
venue,
ou 14
oui.
ans,
oui.
était venue avec vous, et dans votre assistance, il y avait des personnes gentiment retraitées.
Et donc, bien retraitées.
Voilà, l'écart d'âge est formidable. Lini, ça ouvre ses portes à tout le monde.
Puis c'était bien de voir comme cette jeune fille avait l'air heureuse là, au milieu de tous ces
gens de différents âges,
effectivement.
Elle garde un très bon souvenir, oui, effectivement.
Allez, Florence, parle-nous un peu de l'action de Montessori pour la paix, chose qu'on ne connaît pas a priori, vu que Montessori, le thème qui est attaché au nom de Montessori, c'est la pédagogie.
Voilà. Alors, Maria Montessori, comme on l'avait vu la dernière fois, je vous avais dit qu'elle avait été proposée au prix Nobel de la paix 3 fois. Alors, elle n'a pas remporté le prix Nobel de la paix, mais elle a été proposée, ce qui veut dire quand même qu'il y avait un travail qui avait été reconnu à son époque. Et aujourd'hui, je vous apporte un petit peu plus d'infos là-dessus, et notamment des informations que vous pouvez retrouver dans un livre qui est publié chez Declet Brouwer, qui s'appelle « L'éducation et la paix » de Maria Montessori, qui est un ensemble de conférences qu'elle a données entre les années 32 et 39, pour défendre l'idée que l'enfant, si on veut aller vers la paix, c'est par l'enfant qu'on peut changer l'âme humaine, si je peux dire, les générations, pour qu'elles changent vraiment. C'est à partir de l'enfant qu'il faut le faire. Et dans ses discours, il y a la conviction que l'humanité doit s'organiser pour donner à ses enfants la chance d'avancer vers plus de collaboration, plus de compréhension de l'autre, plus de d'unité, en fait, pour que les générations les unes avec les autres.
Les éduquer de manière ouverte, de manière à ce qu'il en reste quelque chose un peu après.
Et surtout qu'à l'âge adulte, ils puissent être dans un esprit de collaboration et n'est pas dans un esprit
de compétition
à outrance. Hein. La compétition fait partie de la vie, bien sûr, mais pas une compétition qui amène à la destruction, en tout cas. Voilà. Alors, je vais vous lire en premier
un petit texte assez court.
Assez court, mais qui va... Alors, on pourrait l'avoir entendu d'un journaliste d'aujourd'hui. Aborder le sujet de l'éducation pour la paix à un moment aussi critique que celui-ci, où la société est sous une permanente menace de guerre, peut paraître témoigner d'un idéalisme le plus naïf. Je crois pourtant que poser les fondements de la paix pour l'éducation est la façon la plus efficace et la plus constructive de s'opposer à la guerre. En effet, les simples besoins des hommes ne peuvent en aucun cas justifier aujourd'hui un combat armé, et la guerre ne peut leur offrir nul espoir d'aucune sorte d'améliorer leur sort. L'humanité est tombée dans un tel état de barbarie et de désordre spirituel que l'individu n'est plus qu'un minuscule grain de sable dans un désert aride. Chacun demeure inconscient du vrai visage de son époque et n'a aucune idée des dangers cachés qu'elle recèle jusqu'au jour où il devient lui-même victime impuissante des événements. Dans une telle situation, il ne peut y avoir aucun progrès ni aucun espoir de paix tant qu'une action puissante et prompte, orientée vers l'humanité elle-même, n'est pas engagée. Diriger notre action vers l'humanité signifie d'abord et avant tout la diriger vers l'enfant. L'enfant, ce citoyen oublié, doit être apprécié à sa juste valeur. Ses droits, en tant qu'être humain, qui façonnent l'humanité entière, doivent devenir sacrés. Et les lois secrètes de son développement psychique normal doivent éclairer notre route vers la civilisation. Si toute l'ère de l'histoire humaine caractérisée par des guerres incessantes peut être qualifié d'âge de l'adulte, alors la période dans laquelle nous commencerons à bâtir la paix sera l'âge de l'enfant.
Alors, ça a été écrit quand, ça ?
Voilà. Alors, c'est un texte qui a été écrit en 1937 autour d'une, pour une conférence qui a été dite à Rome, dans une société tourmentée hein, par le fascisme.
37, oui.
Voilà. Hein. Donc, on pourrait faire face à face.
80 ans après.
Voilà. Quand on parle de l'inquiétude qu'on peut avoir face à Trump, face à ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça, on retrouve un peu des odeurs hein, de guerre qui se baladent.
Et d'interrogation.
Et d'interrogation, voilà. D'inquiétude. Alors, moi, ce que moi j'aime dans ce texte-là, c'est son idée de pas se laisser anéantir par cette angoisse, cette inquiétude, hein, mais bien ouvrir nos yeux et chercher une solution qui soit pérenne aussi, hein, pas une solution qui... Voilà.
Et puis on voit bien pourquoi elle axe sur l'enfant, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est le germe de l'humanité de demain, en fait, hein, qu'elle dit. Il ne faut pas l'abolir. La dernière fois, on avait parlé de Céline Alvarez, hein, qui avait, sur les réseaux sociaux, donné beaucoup de positivisme. Hein, je veux dire, les enseignants se sentent portés parce qu'enfin, on ne leur dit pas il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas ceci. Ou alors, on les caricature et on dit que tous les maux viennent de l'éducation française ou de l'éducation nationale ou je ne sais quoi. Hein, mais au contraire, allez, on se retresse tous les manches, on écoute ce que nous dit la science avec des choses solides, et puis on va vers des solutions pragmatiques au quotidien, voilà, pour changer.
Alors, est-ce que la charte des droits de l'enfant, qui date une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant, on peut dire que c'est un peu l'écho de ça, non ?
Alors, après-guerre, de toute façon, il y a eu vraiment un grand mouvement éducatif, on en avait parlé la dernière fois, hein, qui s'était porté sur l'enfant. Et c'est par l'enfant que les pédagogies d'après-guerre pensaient éviter la guerre, hein. Aujourd'hui, on voit que ça. On est quand même des générations qui avons été élevées dans une certaine paix. Et on a chez nous, en tout cas, des beaux moments. Mais Maria Montessori s'offusquait parce qu'elle disait la paix s'apprend. Hein. Elle dit la paix doit être une science, un art et une culture. C'est pas quelque chose qui est juste à. Voilà. C'est surtout l'opposé de...
C'est pas une simple définition.
Voilà, ça ne peut pas être l'opposé de la guerre, la paix. Elle dit que c'est quelque chose qui se construit et il faut chercher qu'est-ce qui peut amener la paix. Voilà, elle dit dans un autre texte, dans la construction de la paix, il n'est pas de petites choses et de petites échelles. Ce qui se joue entre les femmes et les hommes, entre les enfants et les adultes, entre les enfants même eux-mêmes, au niveau de la famille, au niveau de la classe, du quartier, se retrouve à l'échelle des rapports entre les nations. Hein. Donc il y a aussi un effet boule de neige, si on parlait de neige tout à l'heure, là dans le bon sens, où la tolérance apprise dès la petite enfance va permettre une ouverture. C'est pour ça que nous, dans notre association, depuis l'origine, on dit qu'il faut s'occuper des plus petits. Alors c'est nos enfants, nos bébés, hein, nos tout-petits, mais aussi les tout-petits au sens de la société. Les gens qui sont cassés, les gens qui sont humiliés par un handicap, qui sont pas pris à leur juste valeur, alors que dans chaque individu, il y a une richesse. Et ça, cette richesse-là, voilà, on essaye tous de la retrouver.
Alors une fois le cadre posé, parce que c'est vrai qu'avec ça, on comprend mieux pourquoi donc, elle s'est donnée à cette pédagogie. Donc une fois le cadre posé, la pédagogie Montessori, de manière concrète, si on l'a, pour les besoins de l'exposé, si on la saucissonne un petit peu, par exemple 0 à 3 ans, c'est-à-dire avant l'école, après la maternelle, primaire, alors, c'est quoi ?
Alors 0 à 3 ans, pour une Maria Montessori, alors c'est très curieux, elle a eu une vie, on l'avait vu la dernière fois, hein, où elle avait dû abandonner son fils pour continuer sa vie de femme, et donc elle ne va pas s'occuper des tout-petits tout de suite. Peut-être que c'était trop douloureux pour elle, hein, sûrement. Elle va s'en occuper vraiment vers la fin de sa vie, mais du coup avec une richesse et une maturité, hein, au moment où son fils lui-même va avoir des enfants et qu'elle va vivre dans la famille de sa belle-fille et de son fils et qu'elle va voir grandir ses petits-enfants. Et ce 0-3 ans, nous, sur l'association, on a développé un accueil qui se fait tous les 15 jours, le mercredi matin, où on accueille les parents et les enfants, tout petits, donc moins de 3 ans, nourrissons, tout petits, vraiment bébés, Et puis, après, à quatre pattes, les enfants qui commencent à marcher, les autres. Et on propose le matériel qui est proposé par Maria Montessori. Elle dit que ce premier âge de la vie, c'est tout d'abord un âge où on apprend la motricité de son corps. On utilise, on fait le lien entre ses sensations et ce que ça va permettre d'action dans le monde, au monde. Et la première action, c'est pouvoir bouger sa main.
Se déplacer.
Voilà, percevoir de son œil jusqu'où amène sa main, obtenir... une efficacité suffisante pour attraper un objet. Donc voilà, c'est des choses toutes petites, toutes simples quand les enfants sont tout petits, nourrissons. Puis petit à petit, il va y avoir un développement de motricité pour se déplacer. Et là, il y a la notion d'espace et de temps qui va se construire, hein, qui est très intéressante. Et on va guider les parents là-dedans. Ensuite, l'enfant se met en général debout. À ce niveau-là, il va y avoir une autre perception du monde. Le regard n'est plus vers le plafond, hein, comme quand l'enfant est sur le dos, mais il va être possible de l'orienter beaucoup plus facilement et puis d'aller se déplacer vers les choses. Et là, il y a encore toute une capacité d'agir sur le monde qui est grandie encore. Donc, elle disait, l'être humain tout petit, c'est un être qui va développer des capacités à interagir sur le monde.
Alors, il y a une quarantaine d'années, il y avait un psychologue là, qui avait fait tout joujou avant 6 ans. On peut dire que tout joujou avant 3 ans, non ?
Alors, pour Maria Montessori, effectivement, tout se joue même avant la naissance. Elle disait tout se joue 20 ans avant, en reprenant les termes de quelqu'un d'autre, mais tout se joue 20 ans avant la naissance. Elle dit parce que c'est à travers la culture, à travers ce que les parents vont pouvoir apporter à l'enfant, que l'enfant va se développer bien ou moins bien, et puis qu'il va avoir accès à une petite culture ou beaucoup, beaucoup de cultures, et qu'il va être enrichi. Et plus l'enfant est jeune, on le voit maintenant avec les neurosciences, plus sa plasticité cérébrale fait qu'il absorbe le nom d'esprit absorbant, c'est Maria Montessori qui l'a inventé, mais il absorbe son environnement au niveau sensoriel. Vous avez des sensations qui vous reviennent, vous, un peu plus âgé, et alors encore plus dans le grand âge, de toute cette sensorialité du tout petit, les odeurs, les goûts, les rencontres qu'on a fait là. Voilà.
Et le décalage d'époque, puisque, donc on le disait, hein, il y a 80 ans à peu près, hein, que le, même 80 ans tout juste, que le texte avait été. Mais pour reparler de Maria Montessori, de sa pensée, le fait que nous soyons 80 années après, c'est-à-dire quasi 3 générations après, est-ce que l'application de ce qu'elle préconisait ou pensait est encore complètement d'actualité ou elle est... Comment dire, où sa pensée est un peu à aménager en fonction de la technique actuelle, des technologies, parce que la diffusion du savoir des parents, hein, 20 ans avant, c'est les parents en fait, ouais. Et quand eux-mêmes étaient enfants, on dit qu'elle s'est accélérée depuis quelques années. Est-ce que ça a modifié en quoi que ce soit l'apprentissage, par exemple, ce dont parlait Serge tout à l'heure, quand vous avez des tout petits, est-ce que.
Le rapport à l'apprentissage est différent.
Est différent obligatoirement.
Du fait de notre société.
Et il n'y a pas de décalage par rapport à sa propre pensée là-dessus. Ou alors, c'est simplement une adaptation ou...
On avait vu qu'elle était médecin. Hein, donc la base de sa science pédagogique, hein, puisqu'elle dit pédagogie scientifique, elle est faite sur le corps et la physiologie de l'individu. Ça, on a beau faire... On reste sensoriellement, notre corps il est immuable. Hein. Il n'a d'ailleurs pas tellement de différence avec celui de l'homme d'il y a 10 000 ans.
Hein.
Donc là-dessus, c'est totalement d'actualité, il n'y a rien à dépoussiérer, si on peut dire, voilà, là-dessus. Par contre, au niveau de l'application, je dirais, on voit avec Céline Alvarez, là, elle réactualise certaines choses pour dire « attention ». Nous sommes dans un monde où la culture n'est plus aussi sensorielle qu'elle l'était avant. Autrefois, on touchait beaucoup, goûtait, on voyait maman qui faisait le repas, etc. Aujourd'hui, on achète des barquettes, on ne voit plus comment il fait le repas. Certains enfants ont pas le contact avec la matière brute de l'aliment avant qu'il soit cuisiné. Et Dieu sait que l'Italie a des cuisines merveilleuses. Voilà. Donc là, cette femme italienne, elle va aussi... on pourrait dire il pourrait y avoir un décalage entre les deux. Ça ne se fera pas du fait de son ancrage dans l'être humain en tant que personne physiologique. Notre matériel est un matériel sensoriel à la base. D'accord. Toujours l'entrée de la connaissance se fait par les sens et donc toujours par le corps. Et ça, pour l'instant, on n'a pas inventé le super robot sans corps. Hein, on est des êtres de chair vraiment de chair. Hein, et c'est par là que va se faire l'apprentissage. Chez les tout-petits, on va proposer des choses comme des emboîtements, des objets qui vont être mis dans des boîtes qui vont du coup disparaître à l'œil, mais qu'on peut retrouver avec la main en fourrant sa main dans le tiroir, mmh, ou dans un sac, ou dans des choses. L'idée de permanence de l'objet, mmh, qui est développée au niveau psychologique, va être expérimentée. On travaille par l'expérimentation. Voilà, hein.
L'expérimentation, c'est l'enfant
concrète,
qui expérimente.
Concrète, sensorielle, voilà. Et on met à disposition de l'enfant des petits plateaux sur lesquels, à chaque fois, il y a une expérience à faire sensorielle, hein, surtout chez les tout-petits. Et plus ils vont grandir, plus on va, à partir de cette sensorialité, analyser pour aller vers l'abstraction. Mais au départ, c'est vraiment purement sensoriel, voilà, du toucher, de l'odorat, du goût, ces choses-là. Voilà.
On fait une petite pause.
Pourquoi pas, mais on est en plein dans le...
Enfin, une pause, c'est pas qu'on va manger. Hein.
Justement, on parlait de boîtes, d'objets, etc. Et puis du monde actuel, market, voilà, je cherchais le mot. Alors, toujours dans le voyage de Miranda et de Raquel, et là, on entendra Raquel chanter, elles sont toujours donc, dans ce voyage plus ou moins virtuel et réel à la fois. Et là, la chanson qu'on va entendre, qui s'appelle « Aspettare l'uscita », Attendre la sortie, tout simplement. Alors, elles disent, un tourbillon nous ramène à terre. Hein, elles étaient sur un bateau, hein, mmh, sur une embarcation. Et notre embarcation est mystérieusement... Elle est amarrée dans la fontaine d'un centre commercial. Alors, bien sûr, c'est une image.
Une image, hein. Oui.
Et amusée, c'est-à-dire les deux chanteuses, là, nous observons avec notre longue vue les consommateurs et leurs chariots remplis de marchandises.
Des barquettes.
Sans doute. Que d'objets. Mais nous servent-ils tous? Il y a de l'ordre, tout fonctionne à merveille, tout est ordonné, que ce soit dans le centre commercial ou dans la vie générale, hein, bien sûr c'est une image. Tout le monde attend la sortie en file indienne, celle des caisses, celle de l'autoroute, celle des bureaux. Le monde technologique est un monde parfait, ce monde avec toutes ses épines qui lui sont accrochées, mais si tu enlèves une de ces épines, tout s'arrête.
Ça me rappelle la chanson de Graham Allwright, Petite boîte.
C'est un petit peu la même idée en tous les cas, avec des décalages de, là encore, de génération, même si Graham Allwright est encore bien vivant. Aspettare l'uscita, donc, par Raquel Colombo et Miranda Cortés.
Ho visto il mondo perfetto nel cassetto del congelatore. Freddo democratico, lunga conservazione, stabilità senza ombra di dubbio, nel silenzio e buio totale. Quanta pace, 20 gradi sotto zero, tutti insieme. Ho visto il mondo perfetto tra le lame del frullatore. Tutti uniti, tutti stretti, tutti pronti a farsi a pezzi. Emulsione progressiva di colori, razze, tipi di verdura. Per un unico scopo, un'unica bandiera, tutti insieme. Tutti insieme ad aspettare l'uscita, tutti insieme ad aspettare, tutti insieme ad aspettare che sia finita. Ho visto il mondo perfetto nello blo 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 della lavatrice. Stesso trattamento, movimento, pianificazione al raggiungimento della pulizia globale di tutti i capi, anche i delicati, tutti insieme. Ho visto il mondo perfetto nel cestello della friggitrice. Scoppiettanti, tutti divertenti, spiriti bollenti sotto l'ombrellone, pieni di entusiasmo, schiaccia l'acceleratore. Polli fritti per un giorno da leone, tutti insieme. Tutti insieme ad aspettare l'uscita, tutti insieme ad aspettare, tutti insieme ad aspettare che sia finita. Aspettare l'uscita, tutti insieme ad aspettare che sia finita.
devi accorto. Ce l'hai il bancomat? Ce l'hai la password? Ce l'hai il telepass?
E passano i giorni, e passa la voglia, e passano i sogni, e suona la sveglia. Passano i treni, il temporale, il compleanno, il telegiornale. Passa anche l'uva, la Befana, passa il postino e fine settimana. Passa anche l'alta e bassa marea, passa il passante e la diarrea. Passa la luna, la paura, il passato prossimo di verdura. Passa l'esame, la sentinella, passa la crisi, la varicella. Passa il santo, passa l'oracolo, la processione.
Elles se sont bien amusées sur ce morceau, vous êtes bien sur 97.1, mais on en reparlera à la prochaine émission, mais venez à ce spectacle, vraiment, je pense que ça en vaut la peine.
Alors on va continuer dans l'âge, enfin de la pédagogie adaptée aux âges, mais avant, je voudrais parler d'un phénomène qu'on perçoit à ce moment. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas un peu une sorte de mode Montessori? Il y avait une émission il n'y a pas longtemps à France Inter. Il y a des.
Sur la télévision.
Des étalages dans les boutiques culturelles.
On parle beaucoup de Montessori, un peu de Freinet aussi. Oui.
À Noël, il y a eu beaucoup de ventes.
Beaucoup de choses.
Babioles en tout genre. Montessori.
Voilà, alors, notamment, on a beaucoup parlé de ce phénomène et de la vente d'objets ou de matériel, on va dire. Mm-hmm. Et bon, alors on a parlé tout à l'heure de Seigneur Alvarez, c'est peut-être là aussi le point de départ parler de Montessori, puisqu'on en parlait il y a de nombreuses années, mais peut-être de réactualiser une façon d'éduquer ou d'enseigner.
Prise de conscience, d'après toi, nouvelle ou une mode?
Alors moi, je pense qu'il y a un double phénomène. Il y a un phénomène d'abord d'une société qui se dématérialise énormément, et un effet inverse d'un enfant qui a besoin de sensorialité et des parents qui vont répondre à ce besoin de sensorialité. Et ce matériel, qui est un matériel vraiment étudié, on va dire ergonomiquement au départ, c'est un matériel didactique qui fonctionne instinctivement. Chez l'enfant, vous le posez devant, ça attire l'enfant. Donc ça, c'est déjà une chose et c'est fait pour dans la pédagogie Montessori, mais ça ne suffit pas. Derrière chaque matériel, d'abord, il y a une progression très concrète. Marie Montessori étant médecin, elle a prévu un matériel fonction du niveau de développement de l'enfant. Quand on travaille, nous, dans l'association avec des enfants porteurs de handicap, on cède des études des psychologues qui savent à quel âge de développement est l'enfant pour tel ou tel item, et on va proposer tel matériel pédagogique parce que ça correspond à un âge de développement, quel que soit son âge réel physique, hein. Puisque c'est bien l'âge de développement qui prime. Donc ça, c'est très scientifique. Et une improvisation de la pédagogie Montessori à partir de tout ce qui peut être proposé par des vendeurs de rêves ou des vendeurs d'objets. L'objet Montessori est quand même beau à la base. Ça fait partie des éléments constitutifs de ce matériel. Et du coup, il y a des personnes qui ont très bien compris qu'on pouvait faire du business avec ça. Et ça se voit au quotidien. Par contre, nous, quand on se déplace, éducateurs Montessori formés à la pédagogie, et formateurs encore plus, on voit combien les gens sont pris comme dans un filet et que derrière, cet objet va être dévoyé très rapidement. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage.
Mais oui, parce que ça ne donne pas le vrai visage de ce qu'est la pensée et l'application Montessori.
Voilà.
Si elle est dévoyée, il peut y avoir confusion. Donc à partir de là.
Alors moi je suis à la fois triste et à la fois contente que ça se passe parce que ça se dégonflera d'autant plus vite que.
Et puis ça permet peut-être que
ça fera un tri.
Voilà, ça va faire un tri. Les gens, il ne faut pas que les gens soient naïfs là-dessus. Montessori, c'est une pédagogie structurée, concrètes, qui donnent une grande part de liberté à l'enfant, mais dans un cadre qui lui permet d'avoir une sécurité. Or, aujourd'hui, il y a une sorte d'idée que l'enfant peut se faire par lui-même, avec des parents pressés et qui n'ont pas beaucoup de temps pour leurs enfants parfois. C'est quelque chose de facile à penser que se dire qu'on met l'enfant tout seul devant un objet, il va se débrouiller et il sera magnifiquement intelligent. Voilà. Après, il faut rester... concret. La réalité, c'est que ce qui prime, et Céline Alvarez, là, pour le coup, appuie beaucoup là-dessus, c'est la relation et le lien qu'on a. Maria Montessori disait, hein, l'enfant est le dernier maillon d'une chaîne. Il faut toute la chaîne qu'il y a avant pour arriver à ce maillon. Si vous avez le maillon tout seul, il n'a aucune... voilà, aucun sens. Hein.
Donc au moins, c'est une mode, on en parle, quoi. Ça permet d'en parler.
Alors voilà, ça fait la promotion, mais aussi ça fait des dégâts. Hein. Ça fait des dégâts. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la formation Montessori, là, qui se lancent formateurs improvisés à partir de 2-3 trucs qu'ils connaissent et puis ils transmettent. Moi, je dis attention. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui doit être basé sur d'abord une expérience, une richesse de connaissances de cette pédagogie. Moi, ça fait 12 ans que je lis, j'écris, je fabrique, je teste avec les élèves, je suis avec eux dans une relation, je comprends, j'ai du coup une expérience. Et à partir de là, je transmets. Il y a tous ces enseignants qui viennent en formation chez nous, qui vont eux-mêmes apporter leur expérience. On a tous les mardis soirs des rencontres entre enseignants qui, à nouveau, partagent leur expérience. Ça doit être quelque chose de vécu et de vivant. Ça doit pas être une...
Le formateur ne s'improvise pas. C'est un ancien ministre de l'Éducation qui disait que pour enseigner à des enfants, il n'y avait pas besoin de...
Ça me dit quelque chose.
Ce qui est aberrant, quoi. Enfin, c'est une aberration complète.
Il travaille dans la politique, non?
Ah oui, exactement. C'est une aberration, enfin, franchement.
Voilà.
Autre chose que l'on entend souvent, la pédagogie Montessori peut-être, mais c'est réservé aux riches.
Alors ça, c'est faux. Ça, c'est non, faux. D'abord, Maria Montessori a commencé...
la question.
Voilà. Maria Montessori a commencé dans le quartier de San Lorenzo, comme on en avait parlé la dernière fois, chez des personnes en grande difficulté sociale. Et elle s'est occupée des enfants handicapés avant ça pendant 10 ans. On ne peut pas dire qu'elle ait prévu que ce soit donné aux riches.
Non,
par
contre,
il y a un effet en France, c'est que l'éducation nationale n'ayant pas compris au départ que ça pouvait être vraiment quelque chose de possible pour la masse, pour l'ensemble de la population, ça s'est développé en marge dans les écoles hors contrat. Qui dit hors contrat dit entreprise, où les parents payent tout. De l'électricité au salaire de l'enseignant, au bureau sur lequel l'enfant est assis, au matériel Montessori, et Dieu sait combien le matériel Montessori, il y en a beaucoup et qui coûte quand même assez cher si on veut du matériel pro. Donc là, oui, effectivement, tout de suite, on est dans des tarifs chers pour ces écoles hors contrat. Oui, mais ça, c'est un effet, heureusement pour nous, on est en capacité de transmettre Montessori aussi dans les écoles publiques aujourd'hui, comme nous, on le fait dans le coin. Et ça, c'est important de le dire. On n'est pas obligé. Alors, il n'y en a pas partout, c'est vrai. Voilà. Mais ça existe.
Alors, où est-ce qu'il y en a, abordons la question, où est-ce qu'il y en a vers Bourgoin
dans le Nord-Isère,
Nord-Isère,
pour faire simple.
Dans le Nord-Isère, est-ce que tu sais dans ces écoles si c'est juste une classe ou si c'est l'ensemble de l'école ?
Alors voilà, nous au niveau en tout cas de notre des personnes qu'on a formées sur Bourgoin, on a l'école de Four qui a plusieurs enseignants qui sont formés et qui a une maternelle qui est maintenant qui commence à être vraiment bien rodée avec notre présidente qui est enseignante là-bas. Et puis, il y a aussi sur Villefontaine, aux Quatre Vents, où il y a plusieurs enseignants qui sont formés. Il y a aussi sur la Grive et sur Saint-Alban. Voilà, ça, c'est parce que c'est des gens qui vont parler, et puis de bouche à oreille, les enseignants d'une classe à une autre ou d'un village à un autre vont commencer à... par les parents qui parlent de village d'à côté et tout ça. C'est pour ça que c'est un peu
une
sorte de nid. Hein, on disait tout à l'heure en rigolant. Il y a des nids. Voilà. Et puis après, pour regarder un peu plus sur un territoire plus élargi, vous pouvez aller sur le site de Céline Alvarez. Et là, vous trouverez une carte où les enseignants s'inscrivent en disant, voilà, moi, je désire aller dans une direction Montessori et j'ai commencé à appliquer cette pédagogie dans ma classe. Donc là, vous pouvez vérifier si dans votre coin, vous pouvez trouver un enseignement d'inspiration ou qu'il y ait des gens qui ont commencé à aller vers la formation Montessori pour transformer l'école de l'intérieur. Voilà.
Ok, bien. Alors, on parlait tout à l'heure des 0-3 ans.
En primaire. Est-ce que c'est possible? Alors, en maternelle, hein, ça va être...
Primaire et maternelle, voilà, bien sûr.
Alors, d'abord la maternelle. La maternelle, ça va être très important. Comme on a entendu tout à l'heure dans le texte, hein, Maria Montessori parle de ces grains de sable, hein, qui sont isolés dans le désert. L'individu ne doit pas être isolé. Maria Montessori nous rappelle que c'est un individu social. Et donc, ce côté social, il va falloir l'apprendre. L'apprendre d'abord dans la famille, entre parents et enfants, et puis entre frères et sœurs, et puis après, dans un deuxième temps, l'apprendre avec ses congénères. Et elle dit qu'il ne faut pas que ce soit fait avec une tranche d'âge. Une tranche d'âge, un même âge. Vous voyez, vous mettez dans une classe 30 enfants de 3 ans, le premier jour de la rentrée, malheureusement, c'est compliqué pour la maîtresse, pour les parents, pour les enfants. Hein. Donc la socialisation, ça se fait, elle dit, par des groupes d'âge. Donc ce sont des 3-6 ans qui vont être une communauté enfantine qui va travailler ensemble. Et il va y avoir vraiment, pour l'enseignant qui est là, la possibilité de transmettre aux plus petits, de donner à chacun ce dont il a besoin, mais aussi à l'intérieur de la communauté enfantine, que certains enfants plus grands viennent aider les plus petits et se sentent du coup capables, se sentent pleins de force et pleins, voilà, et puis prennent conscience de leur capacité à être citoyen de la classe, si je peux dire. Hein. Et puis dans l'autre sens, un tout petit qui tout d'un coup, voyant un grand travailler, va venir et va lui dire des petites choses, soit pour le questionner, soit pour intervenir avec sa fraîcheur d'enfant qui n'a pas encore tout compris. Et dans la classe, pour l'avoir vécu moi dans ma classe quand j'étais à Champagne-en-Valremey, il y a vraiment une belle humanité qui se partage et beaucoup de douceur entre les enfants d'apprentissage de la collaboration. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette, quoi. Hein. Et puis, plus tard, au primaire, cette communauté va monter d'un cran encore. C'est-à-dire qu'on va avoir, alors un peu à la façon de Freinet, des moments de regroupement où les enfants vont pouvoir, par exemple, montrer leur travail, d'exposer leur travail aux autres ou exposer leurs découvertes. Et dans ces moments-là, il y a aussi tout un échange d'un enfant qui a entendu parler d'eux, d'un autre qui a vécu ça et qui va s'agglomérer pour faire partie de la pédagogie elle-même. Voilà. L'enseignant va venir nourrir la recherche. Mais derrière, il y a une construction du savoir qui est collective. Et dans notre monde actuel où on a sur Internet un grand nombre de données qui sont offertes, cet apprentissage de l'échange de savoir et de aussi à un moment donné
de tri
voilà, d'où tu connais ça, d'où tu l'as pris, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ta propre juste idée comme ça qui vient de sortir de ta tête, ou est-ce que c'est appuyé sur quelque chose de solide, voilà, est-ce qu'on peut le vérifier avec toi, est-ce qu'on peut refaire l'expérience ensemble, voilà, il y a tous ces éléments là qui au primaire vont être donnés à portée d'enfants. Il y a beaucoup d'expérimentations scientifiques, notamment avec concrètement du matériel et des choses à faire.
C'est vrai que la classe Freinet qui commençait, je veux dire, je ne sais pas comment
par le code 9. Hein.
Oui, ouais. Par une phrase que les enfants apportaient. Quoi.
Voilà. Là, il y a effectivement ça aussi. Et puis, il y a, que ce soit en maternelle, mais encore plus en primaire, aujourd'hui, vraiment un accent qui est donné par les enseignants sur l'apprentissage d'une communication bienveillante les uns avec les autres. Donc, cette paix dont on parlait tout à l'heure, elle s'apprend à l'école. Et on va apprendre à, par exemple, éviter de commencer ses phrases par « tu ». Parce que quand on dit « tu ceci »,« tu es ceci », qui je suis, moi, pour savoir ce qu'est l'autre. Hein. Mais par contre, si on dit « je remarque »,« j'ai vu », voilà, je sens ça. Quand tu me dis, voilà, ça va être beaucoup plus juste parce que les mots sont importants. Et l'apprentissage de la langue, avec un vocabulaire précis en Montessori, on fait beaucoup de vocabulaire, va permettre aussi une compréhension meilleure entre les individus. Voilà. Donc c'est aussi au niveau de l'apprentissage de la communication, de la socialisation des individus les uns avec les autres. Et puis je dirais une dernière chose, hein, c'est dans un monde de manipulation, c'est apprendre aussi à déjouer
les pièges,
les pièges de manipulation. Hein. Moi, avec les enfants de ma classe, là, sur Champagne, sur Gilonnet, j'utilise beaucoup à des moments où je les fais confronter leurs idées les uns avec les autres pour qu'ils cherchent où est la faille. Hein. Mmh. On m'a dit que, d'accord, mmh. Alors un autre enfant va dire d'où tu l'as entendu, c'est à la télé ou sur Internet ou sur YouTube, j'ai vu que... Incroyable. Et à partir, on cherche. Voilà, comment on va faire pour se dépatouiller.
La pelote, hein, c'est
voilà.
Sûr.
Et ça, c'est un vrai apprentissage pour les citoyens de demain.
Bien
voilà.
Sûr.
Et alors au collège, est-ce qu'il y a des prolongements au collège? Alors, ça doit être plus difficile avec les profs différents selon les matières.
Oui, voilà. Alors il y a un problème économique tout simple, hein, c'est qu'on ne peut pas avoir tous les profs ensemble, parce que ça coûterait trop cher pour le collège. Mais Maria Montessori, elle avait une idée. Alors c'est vers la fin de sa vie aussi qu'elle s'est occupée de l'adolescent, pas vers le milieu. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas abouti. Elle est décédée avant d'avoir abouti ce projet-là. Donc on a des collèges qui existent en Montessori. Il y en a un sur Moins-Sartou, près de Nice. Il y en a aussi dans la région parisienne, qui sont assez différents. L'idée de Maria Montessori, c'est qu'à partir du moment où on est à l'adolescence, on commence à avoir envie de toucher la citoyenneté au sens propre. Et l'idée d'un métier, on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et elle imaginait, alors avec l'image de son temps, hein, qu'il fallait produire sa nourriture, produire de l'argent à partir de là, qu'on vendait au marché du coin, puis qu'après, à partir de ça, ils avaient des projets sur l'argent qu'ils avaient gagné.
Oui, c'est bâtir un projet.
Bâtir quoi. Un projet de citoyenneté.
On peut l'élargir
et de
comme ça
société,
maintenant.
Société, voilà. Aujourd'hui, je pense que sur Internet, on a aussi des jeunes qui vont pouvoir créer un petit peu un événement, ensuite récupérer l'argent de cet événement, faire un projet d'aide d'enfants au Sahel. Ou, voilà. Donc, c'est toujours cette idée... Là, pour le collège, de l'argent. L'argent, c'est une monnaie d'échange d'un travail, d'un don qu'a quelqu'un contre le don qu'a quelqu'un d'autre. Et comme chacun a des dons différents, l'argent est vecteur de ces dons les uns envers les autres pour qu'il y ait une entraide et qu'on fabrique cette société tous ensemble. Voilà. L'argent n'est en aucun cas un objectif. Voilà. Et ça va être vraiment quelque chose qu'on peut retenir.
Oui, ça reste un moyen de socialisation.
C'est un moyen. C'est jamais... Dans notre monde aujourd'hui financiarisé, on peut se poser la question où allons-nous voilà, par rapport à ça.
On va faire alors le mois prochain Montessori et l'économie, peut-être.
Non, je pense que vous avez une bonne idée maintenant de ce que Maria Montessori véhicule comme idée. Et ce que je souhaite vous dire, c'est vraiment que vous soyez, vous, auditeurs, parents, enseignants ou même grands-parents, voilà, il faut qu'on prenne la mesure de ce que cette personne a apporté pour le lien entre les générations. Le transgénérationnel, c'est quelque chose très tôt qu'elle a compris qu'il fallait utiliser pour que nous puissions monter sur les épaules des géants, comme dit France Culture.
Mmh. Alors, rappelle-nous les coordonnées de l'association Aide-moi à faire seul.
Alors, l'association... et sur Bourgoin, donc 73 rue de la Libération. Vous pouvez venir à l'association nous rencontrer. Il y aura bientôt plusieurs propositions qui seront faites. Il y aura des conférences. Il y aura 3 conférences qui seront proposées. Donc regardez bien sur le site de l'association.
Alors, rappelle-nous le site de l'association.
Voilà, assomontessori.fr. Et le site de l'association vous permettra de trouver toutes les dates de rencontres parents-enfants 0-3 ans, toutes les dates des formations qui sont proposées. Notamment, nous avons des formations régulièrement pendant les vacances aussi. Et puis, toutes les conférences, dont ces conférences le bébé allongé, le bébé... à quatre pattes, puis le bébé debout, le petit debout, qui seront faites au mois de mars, si je me rappelle bien. Voilà.
D'accord. Eh bien, on va finir avec soit une chanson, soit un morceau de chanson.
Oui, on va finir avec un instrumental, toujours du disque Endar. Et cet instrumental s'appelle Mozart, c'est-à-dire avoir le courage de s'échapper pour défendre sa propre vie est en fait la plus grande des vertus. Ça peut s'appliquer à des tas de choses.
On va remercier
Florence d'être venue sur Couleur FM 97.1. Et puis, au plaisir de se revoir.
Au moins dans la cour.
Au moins dans la cour. Et pas, voilà. Pas uniquement pour la fête des voisins, par exemple.
Voilà. Et moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et puis, assomontessori.fr pour ceux qui ont besoin.
Voilà. Et puis, on en reparlera, mais tous le 17 mars, vendredi 17 mars à 20h, à la salle Balavoine de Villefontaine, avec Raquel et Colombo et Miranda Cortés.
Et on peut saluer
et
tout le monde.
Marianne Chaffangeon en première partie. Voilà. À prochaine émission.
À bientôt.